Mon nom est Catherine Rousseau, je dirige le service de recherche d'un institut qui s'appelle le CRIOC. C'est un acronyme pour Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs. C'est une fondation d'utilité publique qui est donc financée par les pouvoirs publics et qui est dédiée principalement à la recherche sur des questions de consommation et moins souvent à des actions d'information et de lobby. Alors, ce que je vais vous présenter, moi j'ai besoin d'un maître du temps parce que je suis sûre que j'ai tendance à dépasser les délais qui me sont impartis et donc ce sera pratique.
Il est exactement 11h30.
Voilà.
Et donc la limite serait midi.
Tu me fais signe alors.
Voilà.
D'accord.
Je fais signe 10 minutes avant, sauf si tu.
Je suis d'autant plus bavarde sur cette étude qu'en fait on vient de la terminer. Elle a été approuvée le 23 février. Elle a été financée pendant 2 ans par la politique scientifique belge. Et ce qui est intéressant, c'est pour une fois, c'est une recherche qui n'est destinée à rien d'autre qu'à chercher, à comprendre. Et donc on a pu s'arrêter longtemps sur les questions de méthodologie. Est-ce que faire une enquête, ça pose des questions énormes en termes de méthodologie? Est-ce que les opinions qu'on collecte, est-ce que les déclarations sont sur les comportements, sur les attitudes, sur les perceptions, est-ce qu'elles sont finalement, quel lien elles ont avec la réalité? Et c'est le cadre que nous a offert cette étude et je trouve ça vraiment utile à certains moments de se poser ce type de questions. Donc c'est une étude qui a été réalisée en collaboration par l'ULB à l'ULB LIGEAT, donc l'institut qui est développé au développement durable, dédié, et l'ICET qui est un institut de recherche situé ici à Namur et qui s'occupe de questions surtout en matière d'énergie. Alors je vais vous dire 2 mots de la méthodologie, donc je ne vais pas m'y attarder, on y reviendra après si ça vous intéresse. Au départ, on est aussi parti sur une base d'une analyse qualitative. On voulait essayer de comprendre quelles sont les dynamiques de perception, d'attitude, de comportement dans la population belge à l'égard de la consommation d'énergie domestique et qu'est-ce qui motive les gens qui changent de comportement dans ce secteur-là. L'espoir, quelque part, mais il est vain, c'est de si on comprend chez certains, est-ce qu'on peut implémenter des conditions de changement chez les autres? Évidemment. Donc, dans le groupe qualitatif, c'est aussi plusieurs groupes qualitatifs réalisés par un psychologue dont c'est la formation et la sélection du public qui participe est confiée à une agence de recrutement qui respecte des critères socio-démographiques et des critères d'attitude ou de comportement que nous leur avons spécifiés. Sur cette base-là, on formule un certain nombre d'hypothèses et par exemple, une des hypothèses qu'on a pu formuler à la fin de cette étape qualitative, c'est que la consommation d'énergie ne forme pas un tout cohérent. On n'est pas un consommateur d'énergie et on n'est pas non plus un économiseur d'énergie. Il n'y a personne qui adopte un comportement cohérent d'économie d'énergie au travers de tous ses choix de consommation. Ça se dessine plutôt, d'ailleurs, je le répéterai dans les résultats, l'énergie est une grandeur physique qui est très mal perçue. Et peut-être une des premières conclusions, c'est qu'il y a quelque chose à revoir au niveau de l'enseignement, de la physique, et une façon de pouvoir se réapproprier ce paramètre qu'est l'énergie. Et la majorité d'entre nous ne perçoivent l'énergie qu'au travers de ses applications. L'éclairage, la cuisson, le déplacement automobile, le chauffage de la maison. Et chacun de ces secteurs de consommation appelle une dynamique différente. Et donc, on pourra faire des économies d'énergie, par exemple, en matière de chauffage, alors qu'on sera totalement incapable ou on n'aura pas la volonté de les faire par rapport à l'éclairage. On n'est pas dans une dynamique qui est cohérente au travers de tous les secteurs de consommation d'énergie. Puis, nous avons fait une enquête quantitative cet été, et donc avant le renchérissement du prix du pétrole, ce qui pourrait expliquer certains résultats, notamment le manque de lien toujours avec une augmentation de changement de comportement en fonction du prix de l'énergie. Et là, on a interrogé un ensemble d'habitants de la Belgique entre 18 et 60 ans par téléphone. Puis certains résultats paraissaient tellement particuliers qu'on a complété alors l'enquête quantitative par un deuxième volet qualitatif avec des interviews personnelles en profondeur, toujours menées par un psychologue. On voulait comprendre pourquoi on obtenait certains résultats qui semblaient aberrants et aller plus loin dans certaines dynamiques. Et ça nous a vraiment aidé au niveau méthodologique parce qu'on a pu mettre en évidence que les gens qui déclaraient faire ne faisaient pas toujours, faisaient parfois. Et donc, on a pu mettre en doute certains des résultats obtenus, notamment quand les gens déclarent qu'ils sont très concernés par l'environnement ou qu'ils agissent ou qu'ils font ça. En fait, c'est un intérêt qui varie selon les secteurs, qui n'est pas toujours présent, qui est rarement présent comme élément déterminant d'un choix, en tout cas d'un choix de consommation. Donc voilà, je pense que je déborde déjà. Pour vous rassurer, cette longue étude va faire l'objet d'une diffusion tout à fait libre et l'ensemble des résultats qui font quand même plus de 400 pages seront publiés sur le site des trois partenaires ainsi que de la politique scientifique. Donc les résultats sont présentés par logique de dynamique de comportement et donc on a vu que on pouvait identifier des secteurs, on ne se comporte pas de la même manière en chauffage, qu'en utilisation d'appareils, qu'en éclairage, qu'en mobilité. Et aussi, il y a une logique différente qui préside, qui motive les comportements d'investissement, des comportements qu'on doit modifier au quotidien. Et c'est très clair au niveau de l'énergie, puisqu'on peut, par exemple, changer sa chaudière, isoler mieux sa maison, mais on peut aussi mieux apprendre à réguler le chauffage dans la maison ou éteindre dans les pièces inoccupées. Et donc, on présente les résultats selon cette structure-là. L'idée d'aujourd'hui, de cette rencontre, c'est lancer ces idées sans émettre aucune conclusion et sans émettre aucune recommandation et de vous demander à vous, avec ce genre de présentation, de résultats, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui si on veut convaincre et encourager les changements de comportement dans le secteur de l'énergie. Donc, une grandeur mal appréhendée et aussi une méconnaissance très étonnante des quantités d'énergie consommées. La plupart d'entre nous ne savent pas évoquer la quantité en grandeur physique. Je ne sais pas si vous savez me dire combien de kilowatts heure vous avez dépensé en matière de chauffage, mais non plus en grandeur financière. Donc, pour vous montrer. Voilà, donc vous voyez qu'en matière d'électricité, plus de 50% sont incapables d'évoquer le moindre montant en matière de consommation d'électricité et qu'en matière de chauffage, là c'est sans doute lié à la périodicité des factures, mais ce pourcentage s'élève à 62% de personnes incapables d'évoquer le moindre montant en matière de consommation énergétique. D'autre part, ce qui est assez intéressant, c'est que les personnes se montrent sensibles à la température de leur logement et plus largement à la température qui règne dans leur voiture, sur leur lieu de travail, et que la tendance aujourd'hui, c'est d'essayer de passer de lieu climatisé à un autre lieu climatisé sans éprouver les effets du climat. Alors, on voit que dans la température, dans un ménage, c'est assez intéressant, c'est une source de conflit dans un ménage sur deux. Et que généralement, ce conflit se résout par l'adaptation de la température aux besoins de la personne la plus sensible en cette matière, parce qu'on se dit que ce n'est pas la peine d'aller s'engueuler sur la température, et donc on choisit des températures plus élevées. Ce qui est étonnant, c'est que 73% des personnes ont déclaré chauffer leur logement à plus de 20 degrés en hiver. Et donc, on est très loin des désirs de fixer le thermostat vers 18 ou 17 degrés. Alors, je n'insiste pas, mais bien sûr, par exemple, c'est un cliché, mais il s'est vérifié dans le Canty, les femmes sont plus frileuses, les personnes plus âgées également. 60% des personnes ont déclaré avoir envie de se promener légèrement vêtues chez elles, même en hiver. C'est un principe de confort et de bien-être auquel elles tiennent. Donc voilà un peu la répartition de température que les personnes déclarent fixées chez elles en hiver. Et donc on voit, si vous regardez la couleur orange et puis orange foncé, sont toutes des personnes qui fixent à plus de 22 degrés. Donc plus de 50% chauffent en hiver à plus de 22 degrés leur pièce principale. Alors ça, je passe, ce sont des données factuelles et en fait qui sont assez conformes aux données qu'on a de l'INS collectées par les recensements, les équipements en chauffage central. On voit que ça se généralise, qu'il y a de plus en plus de logements équipés de chauffage central, surtout au gaz naturel, un peu moins au mazout, que les personnes disent disposer d'équipements de régulation comme des vannes thermostatiques ou des thermostats d'ambiance ou même des sondes extérieures. Mais ce qui est apparu dans les phases qualitatives, c'est qu'en fait, on a ces dispositifs chez soi et qu'on est incapable, bien souvent, de les réguler, de résoudre des questions. Comment interfèrent les vannes thermostatiques et le thermostat? Comment on doit réguler les uns par rapport aux autres, etc. Et donc, les déclarations des personnes étaient assez conformes à la réalité dans ce domaine-là. Par contre, en matière d'isolation, ce qui est très étonnant, c'est que les personnes déclarent un degré d'isolation bien supérieur à ce qu'on a pu collecter via le recensement de l'INS. Et donc, une des conclusions, c'est que les personnes ont une perception, une vision de l'isolation de leur maison qui est non conforme à la réalité et non conforme aux principes qu'on voudrait installer chez tout le monde d'augmenter l'isolation de son habitation pour éviter les déperditions calorifiques. Et on se dit que c'est assez important parce qu'en fait, il y a très peu de modifications de comportement dans l'échantillon que nous avons testé et sans doute que cette perception est un blocage à la mise en œuvre d'action et que donc, par exemple, une première action qu'on pourrait proposer, c'est révéler à chacun d'entre nous le mauvais état d'isolation de son habitation, notamment par des audits énergétiques ou ce type d'analyse. Au niveau du chauffage, 28% de la population interrogée avait modifié son installation de chauffage du logement qu'il occupait actuellement et on a pu constater que ce comportement d'investissement est directement lié au statut de l'occupation de la maison et donc c'est le fait des propriétaires et nettement moins des locataires, quasiment jamais des locataires, ça semble évident. On a modifié surtout la chaudière, la source d'énergie, passer du mazout au gaz, ou les radiateurs. Quelle est la motivation principale? Eh bien, c'est la recherche de confort. C'est étonnant. C'est aussi à mettre en rapport, on le verra plus tard, avec toutes les campagnes qu'on entend et qui incitent les personnes à faire des économies d'énergie. Je n'ai pas encore vu une campagne qui appuyait cette motivation principale qui est la recherche de confort. D'autres raisons ont été évoquées, comme éviter les gaspillages, des raisons de sécurité, faire des économies financières, moins polluer n'est arrivé qu'en 5 ou 6e lieu, et en tout cas, c'est environ 30% de la population a également indiqué cette motivation pour motiver son choix. Par exemple, un détail, c'est que les francophones sont beaucoup plus lents à la détente que les flamands et que les flamands n'attendent pas la panne pour changer leur chaudière, tandis que chez nous, apparemment, on attend que la chaudière soit défectueuse, trop vieille ou en panne pour la changer. Dans l'échantillon aussi, parmi les personnes qui n'avaient pas fait d'investissement, 22% avaient l'intention de modifier leur chaudière ou l'installation de chauffage dans le futur. En matière d'isolation, beaucoup moins de personnes ont amélioré l'isolation de leur maison que d'avoir modifié le système de chauffage. Ils ont surtout modifié les vitrages, passé à du double vitrage. Ils ont isolé les murs, beaucoup moins les toits et très très peu les sols. Donc je vous ai dit, une partie de ce que l'analyse nous apprend, c'est que les gens ont une mauvaise perception de l'état d'isolation de leur maison, que quand on parle d'isolation, ils ne comprennent pas ce qu'on leur dise, le K50, K45. Et ce que je ne vous ai pas dit dans la méthodologie, c'est qu'il y a eu aussi, faite par l'ICED et l'ULB, toute une enquête auprès des intermédiaires, notamment de la construction et des autorités publiques, et qu'aujourd'hui, alors qu'on pourrait vraiment croire le contraire, il n'y a pas de culture de l'énergie dans le secteur de la construction. Et donc certaines personnes qui voudraient améliorer leur logement, qui voudraient faire des travaux d'isolation, déclarent rencontrer beaucoup de difficultés, de contraintes sur leur terrain pour mettre leurs souhaits à exécution. Encore une fois, l'isolation, on l'a modifiée essentiellement pour augmenter le confort, pour limiter les gaspillages, pour des raisons financières et aussi pour réduire les nuisances sonores. Dans l'échantillon, 12% ont l'intention de modifier dans le futur leur isolation. Voilà, ce qui était étonnant, c'est qu'on dit aujourd'hui, oui, la protection de l'environnement, et vous le verrez, ça se confirme, ce n'est pas la motivation vers des économies d'énergie, il faut insister sur la finance. On va encourager les gens à faire des économies d'énergie parce qu'ils vont pouvoir faire des économies financières. Mais dans la phase qualitative comme dans la phase quantitative, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, c'est une relation très trouble. En fait, les gens ne perçoivent pas les investissements comme une source d'économie, mais comme une source de dépenses. Il faut d'abord dépenser pour faire un investissement. Et pour eux, l'économie, ils ne la mesurent pas en termes énergétiques, ils la mesurent en termes financiers. Donc, elle ne survient que quand l'investissement a été remboursé et certains retours d'investissement sont très très longs, parfois 20 ans. Les panneaux solaires aujourd'hui, je pense que vraiment avec même les meilleures formules, on est encore à des temps de retour qui sont de l'ordre de 10 à 20 ans. Et donc les gens ne perçoivent pas d'économie avant ce retour d'investissement. En plus, j'ai insisté sur le fait qu'ils ne connaissent pas le montant de leur consommation. Et souvent, dans les personnes qui ont fait des travaux, ils ne savent pas combien ils ont gagné. Les gens qui veulent faire des travaux ne savent pas combien ils espèrent gagner. Et les gens qui ont fait ne savent pas s'ils ont gagné ce qu'ils en ont fait, quel poste ils ont pu améliorer. Donc, c'est une relation trouble. C'est sûr que c'est un incitant cité, mais qui devrait être précisé. Ce qui était étonnant aussi, c'est de voir quels sont les conseils qu'on utilise pour faire ces travaux. Donc, les gens qui ont fait des travaux en matière de chauffage, ce sont à 70% adressés aux chauffagistes. Et justement, l'enquête auprès des intermédiaires a montré que les chauffagistes étaient très peu concernés par des questions de performance énergétique et obéissaient à d'autres motivations. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que dans le domaine de l'isolation, quasiment personne ne s'est informé avant de faire les travaux, comme s'il n'y avait pas aujourd'hui de pôle d'expertise reconnu en matière d'isolation. Chacun entame des travaux d'isolation, au petit bonheur la chance, en bricoleur, et donc on peut se poser la question de savoir si ces travaux sont faits correctement et si on atteint bien les coefficients souhaités par les autorités publiques. Aussi, ce qui est étonnant, c'est les primes. Pourtant, on en entend plus parler et quand on discute avec les personnes qui travaillent au guichet de l'énergie, elles disent « on est débordés depuis cet été, les demandes n'arrêtent pas d'arriver ». Et pourtant, nous, dans l'enquête, on voit que dans les gens qui ont effectué des travaux jusqu'à présent, les primes n'ont pas joué un rôle moteur. Très peu de gens ont demandé ces primes pour les travaux effectués. Il y a un peu plus de primes demandées en matière de chauffage et beaucoup moins en matière d'isolation. En matière d'isolation, on peut sans doute le comprendre parce que les travaux sont faits soit par soi-même, soit au noir et qu'on a des réticences à demander une prime. Néanmoins, l'enquête montre que les gens ne savent pas que les primes existent, qu'ils ne savent pas où s'adresser, qu'ils trouvent les formalités très complexes, que le fait qu'il y ait des primes qu'on puisse obtenir aux différents niveaux, régionaux, fédéraux, communaux, auprès de l'intercommunal, complexifie les démarches, et montrer aussi probablement qu'il y a un impact social et que ces démarches sont d'autant plus difficiles à faire qu'on en aurait besoin. Alors, il faut aussi souligner que certaines mesures incitantes à faire des économies ne sont pas accessibles aux plus pauvres, et qu'en Belgique, c'est une particularité, nous avons quand même un certain pourcentage de propriétaires pauvres, parce qu'il y a une culture de la propriété assez forte chez nous. Et donc, ces propriétaires, souvent, sont exclus des moyens d'aide à l'investissement pour modifier les structures. Donc, je ne m'arrête pas, il n'y a aucune phrase en rouge sur comportement en matière de chauffage, et je vous dis, tout le monde fait bien, tout le monde déclare faire bien. Et en fait, c'est dans la phase qualitative supplémentaire qu'on a appris qu'en fait, les gens... On se dit oui, je régule ma température, mais en fait, quand on leur dit concrètement qu'est-ce que c'est réguler, ils disent quand on part en vacances, on coupe la chaudière, par exemple. Donc, c'est vrai que les questions, on a demandé si les gens régulaient la température la nuit, si la température dans les différentes pièces était différente, si quand ils s'absentaient plus de 4 heures, ils régulaient, et en majorité, les gens déclarent bien faire. Alors, ça, c'est peut-être utile à dire, c'est qu'en fait, les gens ne sont pas prêts, en général, à part très très peu de personnes, les gens ne sont pas prêts à faire des économies pour rencontrer un besoin collectif et, par exemple, répondre aux défis de Kyoto et réduire les émissions de la Belgique. Et ils ne sont pas prêts à faire un effort. Par contre, ils sont tout à fait prêts à réduire ce qu'ils visualisent, ce qu'ils perçoivent comme du gaspillage. Chez nous, peut-être qu'on a encore des générations, les générations interrogées sont peut-être encore sensibilisées, je ne sais pas, parce que les messages des parents qui ont vécu les guerres, mais faire des gaspillages, ça c'est quelque chose à peu près inacceptable pour tout le monde. Et donc, par exemple, éteindre dans une pièce inoccupée, les gens disent, évidemment, à quoi ça sert d'éteindre une pièce inoccupée ? Et donc, cette volonté de faire des économies en évitant ce qu'ils considèrent comme des gaspillages existent. C'est comme ça qu'il y aurait un vrai intérêt, mais aussi une méconnaissance totale, et donc sans doute la possibilité de faire des campagnes efficaces par rapport aux économies de veille. Quoi ? Un appareil qui ne fonctionne pas consomme encore. Ça, c'est une révélation, et c'est perçu comme un gaspillage. Juste une anecdote pour vous montrer, par exemple, l'éclairage. Tout le monde a déclaré éteindre dans les pièces inoccupées. Et puis, en fait, quand on a récupéré les gens, on les a réinterrogés. Et en fait, l'éclairage, il y a que les gens qui conçoivent des mesures politiques qui pensent qu'on utilise l'éclairage pour éclairer quand il fait noir. En fait, l'éclairage n'est pas utilisé fonctionnellement, il est utilisé beaucoup plus émotionnellement. On éclaire pour des raisons esthétiques, parce qu'on veut mettre en valeur tel et tel aspect de son habitation. On éclaire parce qu'on vit seul et que cette solitude nous pèse et qu'on a envie de créer de la vie. On ne met pas une lampe au milieu de la pièce, on multiplie les éclairages parce qu'on veut créer une ambiance et que finalement, toutes ces motivations font que pour certaines personnes, on n'éteint pas dans les pièces inoccupées. Justement, les personnes qui souhaitent ne pas se sentir seules quand elles rentrent chez elles auront tendance à laisser allumer dans le hall d'entrée, dans la cuisine, le salon, dans les pièces où elles vont voyager au cours de la soirée. Appareil électrique, état des lieux, donc on passe dans une autre dynamique. On a calculé des coefficients qui sont intéressants. On fera une communication séparée d'ailleurs là-dessus pour montrer que certains appareils sont quasiment présents dans tous les ménages. Certains appareils ne le sont pas, ne sont des indicateurs de certains groupes de population. Mais ce qui est intéressant à montrer, c'est qu'aujourd'hui, on vient de passer au-delà d'une limite, c'est que ceux qui possèdent ordinateurs et télévision, en moyenne, en possèdent plus d'un. Donc, quand on a une télévision, en général, on en possède plus d'une et un ordinateur, plus d'un. En moyenne, ça veut dire que certains non, mais d'autres, 3 ou 4 ordinateurs et 3 ou 4 télévisions. Donc aussi, beaucoup de déclarations positives par rapport aux ampoules à économie d'énergie et moins de pratiques contrôlées dans la phase de contrôle par la suite. D'une manière identique, assez bien de personnes se déclarent équipées d'un frigo économe, là également avec un facteur social évident, qu'on retrouve plus de frigos économes dans les groupes sociaux moyens et supérieurs que dans les groupes sociaux inférieurs, avec une difficulté d'accéder à ces frigos performants pour les groupes sociaux inférieurs et notamment les démarches pour obtenir des primes. Ce qui est étonnant, c'est que les personnes qui n'en ont pas, par exemple, parmi les jeunes ou les groupes sociaux inférieurs, ne déclarent pas en majorité vouloir en acquérir un dans le futur. Une remarque générale, c'est que quel que soit l'appareil électrodomestique envisagé, les gens, ce qu'ils déclarent préférer, c'est qu'on mette à leur disposition des appareils performants, éco-performants, plutôt que de se passer d'acheter ce nouveau type d'appareil, ou plutôt que de devoir l'utiliser autrement. Donc, je pense qu'il y a une grande attente vis-à-vis des normes en matière de performance énergétique et du marché. Ils veulent pouvoir choisir des appareils, mais avoir la garantie qu'avec cet appareil-là, ils vont consommer moins. Moins de comportements d'économie, en tout cas déclarés en matière d'électricité qu'en matière de chauffage, et nettement moins à Bruxelles, et nettement moins parmi les groupes sociaux inférieurs. Alors, en fait, on a utilisé plusieurs grille d'analyse des résultats, des analyses transversales, des analyses générales, des segmentations et des typologies. Je ne sais pas si on aura le temps d'aller jusqu'au bout, mais en tout cas, ce qu'on a vu en matière d'énergie, c'est que les critères sociodémographiques classiques étaient souvent des valeurs explicatives plus prégnantes que des critères d'attitude. Est-ce qu'on fait des économies d'énergie parce qu'on est sensible à l'environnement ? Ça n'apparaît pas dans l'étude. On fait plus volontiers des économies d'énergie quand on habite dans telle région, qu'on appartient à tel groupe social. Et donc, on arrive à utiliser des variables finalement assez classiques pour expliquer les comportements et les dynamiques de changement de comportement dans ce secteur. Alors, une hypothèse qu'on avait fait à l'issue du qualitatif et qui s'est vérifiée en partie, c'est que notre consommation d'énergie est en relation avec notre perception de l'habitat. Donc, par exemple, si on envisage de rester longtemps dans un lieu, on est plus disposé à faire des investissements dans ce lieu et à adopter des comportements d'utilisation rationnelle dans ce lieu. Et donc, c'est classiquement le cas des propriétaires, mais aussi, c'est plus en lien, si on veut aller mettre un peu de sensibilité dans la réponse, c'est davantage en lien avec la perspective de longue durée d'occupation du logement. Donc aussi quand on envisage son logement comme un lieu convivial, de vie, de passage, où tout le monde doit se sentir bien, Eh bien, on est vis-à-vis de familles et de ménages qui déclarent avoir des difficultés à maîtriser la consommation d'énergie, parce que ce qui est important, c'est que chacun se sente bien et que donc on adaptera la température pour que l'ambiance soit confortable. Et souvent, dans les familles nombreuses aussi, déclarent que leur logement est avant tout un lieu de vie, de partage, et déclarent qu'elles ont beaucoup de mal à maîtriser leur consommation d'énergie. Un profil que nous avions aussi identifié d'intéressant sont des personnes qui envisagent leur logement comme un lieu de démonstration. J'aménage mon lieu comme je suis, je dis aux autres qui je suis au travers de la décoration. Et ces gens-là aussi ont du mal à mettre en œuvre certains comportements d'économie d'énergie, parce que ça doit alors être conforme à leur motivation première, qui est de montrer qui ils sont. Et donc, s'il faut mettre en valeur 15 tableaux parce qu'ils ont acquis 15 tableaux, il est impensable de faire des économies dans ce secteur-là précisément. Perception des économies d'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on pense? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est positif de faire des économies d'énergie? Est-ce qu'il y a un lien avec les comportements adoptés? Eh bien, ce qu'on a pu mettre en évidence comme lien, c'est que plus on donne de sens aux économies d'énergie, plus on retrouve des comportements d'utilisation rationnelle. Donc, si les gens pouvaient dire librement c'est quoi faire des économies d'énergie, et plus ils donnent de sens, plus, en général, ils ont aussi adopté de comportements. Perception de l'environnement, simplement pour vous dire qu'on n'a pas pu mettre en évidence de relations. Je suis quelqu'un qui suis concernée par les questions environnementales, j'agis pour l'environnement, je fais des économies d'énergie. Par contre, parmi les gens qui ont adopté des comportements d'énergie, la protection de l'environnement est toujours perçue comme quelque chose de positif. Donc, ça c'est intéressant. L'information. C'était étonnant. Il n'y a pas de lien univoque entre information et comportement. Il y a des personnes très bien informées qui n'agissent pas du tout. Il y a des personnes qui agissent qui sont pas bien informées. Mais ce qui était étonnant, c'est que d'abord ce niveau d'information augmente avec l'âge, qu'on a pu détecter certaines croyances qui sans doute sont des freins au bon comportement, notamment par rapport aux économies de veille. Et une dynamique particulière en matière d'information, c'est que les personnes qui veulent faire des économies d'énergie mettent en œuvre des recherches actives d'information et se disent suffisamment informées. Et les personnes qui ne font rien disent « je ne suis pas assez informée » et n'utilisent pas les informations, même quand elles leur parviennent chez eux à domicile, dans la boîte aux lettres, où les étiquetages de produits ne sont pas lus, alors que c'est ce manque d'information qu'elles mettent en avant. Je vais passer dans l'enquête comportait toute une partie de sensibilité aux différentes mesures, si le prix augmente, si la pollution de l'environnement devient plus visible, si on m'offre la possibilité d'avoir un audit personnalisé, quels seraient les instruments qui m'inciteraient davantage à faire des économies d'énergie. Les réponses sont différentes selon les groupes de population, mais en région wallonne, notamment où on est aujourd'hui, et les francophones en général préfèrent l'instrument réglementaire. C'est-à-dire, l'instrument réglementaire n'est pas perçu comme « on va m'obliger à faire ce que je ne ferai pas spontanément ». Je pense qu'il est plus perçu comme un outil démocratique. Je suis rassurée sur le fait que tout le monde va agir et que si j'agis, je ne serai pas le seul à devoir le faire. Et je crois que ça rejoint un peu les résultats. Les gens sont prêts à le faire s'ils ont la garantie que les autres vont agir, et la réglementation offre cette garantie. Bon, ça c'était aussi, par exemple, les gens dans les groupes créatifs au départ ont dit vraiment c'est trop compliqué toute cette question d'utilisation rationnelle de l'énergie, on n'a pas envie de lire des brochures, on n'a pas envie. Ce qu'on aimerait bien, c'est qu'on nous éduque et que les appareils nous éduquent. Donc, par exemple, des recommandations à faire, sans doute à négocier en matière d'éco-design avec le secteur de l'élaboration des appareils. Mais eux trouveraient très pratique que le frigo sonne si on le laisse ouvert, que le lave-linge dise « attention, 60 degrés, c'est trop chaud, vous pouvez obtenir le même résultat en mettant 40 degrés », et toute une série de dispositifs qui les aident concrètement. Donc, simplement vous dire, on a multiplié les analyses puisqu'on avait les moyens, le temps de le faire, ce qui a été vraiment qui a été très intéressant. On a pu utiliser à un moment donné une typologie. Une typologie, c'est simplement un outil descriptif qui n'explique rien, Donc c'est un outil qui permet de faire des groupes les plus homogènes possibles entre eux et les plus hétérogènes possibles en extérieur. Et donc si on met dans ce logiciel toutes les variables d'attitude et de comportement, on a obtenu 4 groupes. Et ces 4 groupes qui ne sont pas, on n'a pas appris grand-chose. Il y a un groupe principal qui sont des gens qui ne font pas grand-chose en définitive, mais qui déclarent faire beaucoup. Et en tout cas, qu'ils ont comme particularité de ne pas investir. Et donc, le profil correspondant, ce sont en moyenne, hein, bien sûr, c'est qu'une moyenne, des Flamands habitant en ville, 30-39 ans, vivant en couple, un ou deux enfants adolescents, groupe social moyen ou supérieur, pas propriétaires de leur logement et qui ne connaissent pas le montant de leur facture énergétique. Par contre, il y a un groupe très net qui se détache, les investisseurs, ben, ils sont propriétaires, plutôt ayant acheté une maison construite plutôt que faisant construire une maison, flamands et wallons, plus de 40 ans, appartenant aux groupes sociaux moyens. Il y a 2 petits groupes qui ne font absolument rien, ni investir, ni agir, mais qui sont des groupes qui sont piégés dans des contraintes très très différentes. Donc il y a un petit profil de femmes wallonnes, vivant seul avec des enfants en bas âge, de groupe social inférieur. Et l'autre groupe qui consomme à tout vent, sans rien faire, sont des hommes francophones, jeunes, vivant à Bruxelles et locataires. Voilà. Donc c'est très différent. Et juste si j'ai encore une minute, on a aussi procédé à une segmentation. Ça, c'est une analyse plus de type explicatif, c'est-à-dire que pour chaque variable indépendamment, on mesure la relation existant entre la variable et une série de comportements qu'on avait agrégés, donc 8 comportements d'économie. Et chaque fois, on a mesuré l'attitude environnementale, est-elle reliée au comportement, l'attitude, voilà. Et donc, c'est grâce à cet outil qu'on a pu mettre en évidence le degré d'explicativité plus important des variables socio-démographiques habituelles. Et donc, on obtient des segments de consommateurs. Et donc, par exemple, ici, il faut voir, dans ce segment, donc dans les gens qui sont des groupes sociaux moyens, habitant des maisons de taille moyenne, vivant dans les villes flamandes, estimant que l'énergie pour se chauffer est chère, mais qui ne connaissent pas le montant de leur facture d'électricité. Si on prend ce segment de la population, donc tous les Flamands, groupe social moyen, habitant des maisons moyennes, dans ce groupe-là, c'est parmi ce groupe-là qu'on trouve les personnes qui ont mis en œuvre le plus de comportements et d'investissements en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie. Donc on voit dans ce groupe-là, 67% des personnes ont adopté les 8 comportements testés. Et donc, on peut les parcourir. Il y a 6 groupes et on peut aller voir le dernier. Voilà, le dernier. Donc, le segment de la population parmi lequel on trouve le plus de personnes qui n'ont rien mis en œuvre, ce sont des personnes isolées, des hommes, habitant des petites maisons, en tout cas de moins de 6 pièces, et ayant des frais de chauffage soit très faibles, soit très élevés, et on est renvoyé sans doute à la dichotomie qu'on avait mis en évidence. Voilà, mais je vais en rester là, et je vous remercie.